Bonjour à tous, ici c'est Thierry de Lille, ex-Gonesse. Je pensais à un truc maintenant que je suis dans le Nord et après avoir grandi à côté de Villiers-le-Bel. Pour résoudre les problèmes d'immigration, on a fermé Sangatte et aujourd'hui il n'y a plus de problème d'immigration. Eh bien, il n'y a qu'à fermer les banlieues, il n'y aura plus de problème de banlieue. Il y aura interdit à la jeunesse aussi, comme ça il n'y aura plus de problème de jeunes. Moi j'étais animateur sportif à Sarcelles, on ouvrait les gymnases jusqu'à 22h. Ça me semble aller dans un bon sens. Et quand on fait la une d'un journal télévisé avec petit Nicolas qui nous dit organiser des matchs de rugby avec les jeunes du quartier, c'est pas la mission première de la police. Et ben je trouve qu'on va dans le sens contraire. Et aujourd'hui, c'est plus un mur, c'est plus un fossé. C'est qu'on devait réduire la fracture sociale. On creuse la fosse des Mariannes entre les gens qui ont de la thune, les gens qui n'en ont pas. Comment vous voulez que ceux qui n'en ont pas se sentent bien? Comment vous voulez qu'ils accusent pas tout le reste? Et comment vous voulez qu'ils tiennent tranquilles quand ils se sentent à tel point exclus de tout ce qui est fait? On dit que c'est des cons et que c'est des casseurs parce que ils vont pas péter dans le 16e mais dans leur banlieue. Mais un gamin, il casse pas la voiture de son père quand il fait une crise. Il casse ses jouets. Merci d'exister. À plus.
Oui, bonjour, bonjour à tous les AMG, ici c'est Yves, privilégié, bénéficiaire d'un régime spécial, et je voudrais dire que j'en ai marre d'entendre tous ces gens se plaindre de la hausse du coût de la vie, de la baisse du pouvoir d'achat. Ils n'ont qu'à écouter Jean-Marc Sylvestre tous les matins à 7h20 sur France Inter, et puis à ce moment-là, ils comprendront qu'au lieu d'acheter des beefsteaks, au lieu d'acheter du lait, au lieu d'acheter du pain, ils n'ont qu'à acheter des écrans plats et des télés. Il paraît que le prix baisse. Alors, changer de vie, c'est tout. Allez, bonsoir amicalement à tous.
À propos de la mort des deux adolescents à Villiers-le-Bel, doit-on s'interroger sur le résultat de l'enquête interne et le constat de la procureure selon laquelle les policiers n'auraient commis aucune faute, donc que les adolescents sont les seuls responsables de leur propre mort? Eh bien, il faut croire que oui, en faisant un détour par d'autres faits. Par exemple, le 5 novembre, une jeune avocate a été violemment blessée par des policiers, non loin du palais de justice de Colmar. Elle a porté plainte, le préfet l'a reçue, et lui a balancé texto que, je cite, « les témoins qu'elle pourrait produire ne vaudraient rien face à ceux de la police ». Voir ce témoignage, par exemple, page 13 du Nouvel Observateur de cette semaine. Alors si une avocate en robe n'a aucune chance que justice lui soit rendue pour des faits ayant eu lieu le jour, en pleine ville de Colmar, que peuvent bien attendre les familles de ces deux jeunes d'une cité de la grande banlieue parisienne? La police en France a toujours raison, même quand elle provoque des drames.
Ah, la propagande politique. Ah, ben moi, ce soir, en rentrant chez moi, après une journée de travail, j'ai écouté Raymond Soubi, conseiller de Nicolas Sarkozy, qui parlait des heures supplémentaires, que les ouvriers allaient faire une fortune, tout ça. Ben moi, des heures supplémentaires, j'en fais. Hein. Je peux me taper 60, 65 heures dans une semaine, et je n'ai pas une seule heure sup. Je travaille comme intérimaire. Donc, si je fais pas déjà 140 heures dans une boîte, toutes mes heures sont lissées, je ne touche rien. Donc, je peux bosser 200 heures, comme ça, dans le mois, pour différentes boîtes. Je n'ai pas une seule heure sup, c'est le lissage. Ça, le lissage, ça fait mal. Hein. Et en plus, comme je fais routier, hein, je gagne 6 centimes au-dessus du SMIG. Je conduis un énorme semi-remorque dans toute la France. Hein. Et quand je regarde, au bout de 200 heures, si j'ai la chance d'en faire, entre guillemets, la chance, eh ben, je gagne 12 euros de plus que le SMIG. Bon, allez, sur ces bonnes nouvelles-là, je vous laisse. Bonne journée, là-bas, si j'y suis, à tous les auditeurs. Au revoir, ciao.
Voilà, ça va être le moment de la pub après.
Après 7 heures, je ne sais pas ce que ça va faire.
Comment ça va se télescoper, voyons voir.
Au moment où la grève s'achève, où la raison l'emporte, ma première pensée va aux millions de Français qui n'en peuvent plus après 10 jours de galère. Alors à ces millions de Français qui ont eu le sentiment d'être pris en otage, je veux affirmer que je sais leur peine et leur fatigue, et que pour autant je n'ai pas cessé de tout faire pour que cette peine et cette fatigue durent le moins longtemps possible. La réforme des régimes spéciaux de retraite ne pouvait plus être différée.
Si ça n'était pas aussi tragique, ce serait drôle.
Voilà, Daniel. Ce petit montage, dont tu ne manqueras pas de relever le caractère artisanal, j'ai fait ça avec des cassettes. Ce petit montage est ma réponse à l'interrogation que tu formulais à la fin de ton émission de ce lundi 26 novembre au sujet de ce que nous réservait le message publicitaire qui allait succéder à là-bas si j'y suis. Bien cordialement.
Ouais, bonjour à toute l'équipe. Je suis le policier garde la paix qui vous laisse de temps en temps des messages. Donc je voulais d'un nouveau laisser une réaction par rapport à ce qui s'est passé dimanche là en région parisienne. Je voulais d'abord dire que j'étais touché et désolé par la mort de ces deux adolescents. Et forcément, des interrogations se posent, de nombreuses interrogations. Et puis, c'est surtout, je me demandais sur la relation police et jeunes dans ces quartiers-là. Parce que pour en arriver à un tel drame, c'est que vraiment, je dirais que les tensions sont importantes et énormes pour quelque chose au départ hein, qui paraît, je sais pas moi, un petit trouble public. Enfin, on sait pas, on connaît pas les circonstances de l'accident, mais en arrivée là, c'est que vraiment il y a un tel degré de tension qui peuvent éclater à tout moment. Donc, ce serait intéressant de réfléchir. Moi, je me pose la question sur les relations entre la police et les jeunes dans ces quartiers-là, et puis peut-être. Essayer d'aller faire des recherches dans des travaux de sociologues qui se sont intéressés peut-être à ces sentiments de défiance quoi qui sont exacerbés en ce moment, peut-être aussi également avec les politiques sécuritaires et puis stigmatisation de ces quartiers-là. Donc je sais pas, voilà, je suis en train de me poser ces questions et puis essayer peut-être de me replonger dans des lectures, essayer peut-être vous, de votre côté, à toute l'équipe, essayer peut-être de nous apporter des réponses et des solutions. Et puis je sais qu'il y a des travaux comme ceux de Laurent Mucchielli qui ont étudié un tout petit peu ces relations-là. Il y a, voilà.
La BAC, si j'y suis aujourd'hui. Ah oui, merci à cet AMG en képi de nous faire part de ces réflexions effectivement judicieuses. Vous imaginez bien que le répondeur de la BAC, si j'y suis, la boîte vocale de la BAC, si j'y suis, est pleine de messages concernant ce qui s'est passé cette nuit à Villiers-le-Bel, scène de guérilla, etc. Mais nous, on va revenir en arrière parce que ces histoires-là sont à répétition depuis combien de temps ? Depuis 20 ans, 30 ans dans notre pays. Et on va revenir à la Courneuve. Vous vous souvenez, le 19 juin 2005, à la Courneuve, dans la cité des 4000, un jeune garçon de 11 ans, Sidi Ahmed, était tué d'une balle perdue lors d'un règlement de compte. À l'époque, le ministre de l'Intérieur s'appelait Nicolas Sarkozy et il était intervenu très rapidement, d'une manière très radicale. Et quelques jours plus tard, le 30 juin, et il était venu à la Courneuve, dans la cité des 4000, indiquant qu'après la répression venait le temps de la prévention. Il entendait, disait-il, prendre des mesures extrêmement concrètes devant une centaine d'habitants. Il s'était prononcé d'abord en disant qu'il faisait de cette affaire une affaire personnelle, se sentant personnellement responsable de l'action à mettre en œuvre. Et il avait annoncé l'établissement de plusieurs partenariats entre les collèges et lycées de la Courneuve et l'ESSEC, oui, l'ESSEC, l'Institut supérieur de mécanique de Paris, l'Institut d'études politiques, 10 élèves de la Courneuve ayant déjà été intégrés. Sciences Po était présent, etc., etc. Et bien sûr, la promesse, vous vous souvenez, c'était de nettoyer la cité des 4000. Ça, c'était en 2005, en juin 2005. Et l'année suivante, un an après, un petit peu plus d'un an après, en octobre 2006, nous étions retournés là, à la Courneuve, dans la cité des 4000. avec Dilatebi pour voir si ce qu'avait dit d'une façon aussi volontaire, enfin, quelqu'un qui prend des décisions et qui va faire quelque chose, qu'est-ce qu'il avait fait, qu'est-ce qui avait été fait, où en était-on un an après. Donc voilà, c'est un retour à la cité des 4000, à la Courneuve, un an après ces tonitruantes déclarations du ministre de l'Intérieur de l'époque. Pourquoi ça? Pourquoi revenir comme ça? Parce que les mots qu'on entend actuellement autour des de ce qui se passe à Villiers-le-Bel, les analyses qu'on va avoir dans les jours qui viennent et qui ressembleront probablement à ce que suggère notre ami policier, eh bien, on les a entendues l'année dernière, l'année précédente. On peut très bien ne pas faire de reportage du tout et reprendre dans les reportages précédents, des années précédentes. Cette violence est devenue un marronnier, comme on dit dans notre métier. Alors, un marronnier dont les marrons sont de plus en plus gros chaque saison, mais c'est toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes effets, c'est toujours les mêmes causes. Et est-ce qu'on va se dire que rien ne change? Non, c'est pas dans nos habitudes, mais quand même. Voilà, c'est notre sujet du jour. Donc, retour à la Courneuve un an après, en octobre 2006, un an après les événements de juin 2005. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut les AMG, un petit message du Jura pour vous signaler que ce jeudi 29 novembre à Dole, au café Le Connemara qui se situe au 99 de l'avenue du Maréchal Juin, se tiendra notre café repère mensuel. Comme Noël approche, on a décidé de discuter autour du thème du don. On commencera à partir de 19h, 19h30, mais faut pas hésiter à passer un peu plus tard dans la soirée. Il y a des chances qu'il y ait du monde jusqu'à la fermeture, comme d'habitude. Pendant que j'y suis, j'en profite pour signaler que nos copains AMG de Lons-le-Saunier tiennent également leur café repère ce même jeudi soir, au café Le Tiffany, rue Rouget de Lille, à partir de 20h30 sur le thème de la santé, avec un médecin de l'hôpital de Lons-le-Saunier. Voilà, sur ce, bonne journée à tous. Ciao.
Le drame du petit commerce, c'est que le petit commerçant n'est pas assez entré dans l'histoire. Le petit commerçant ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Et avec ça, vous prendrez quoi? Voici votre monnaie, etc. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où le commerce commande tout, le petit commerçant échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Et le petit commerçant reste immobile au milieu d'un ordre immuable, où tout semble être écrit d'avance. Jamais le petit commerçant ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Le problème du petit commerce, et permettez à un ami du petit commerce de le dire, il est là. Le défi du commerce, c'est d'entrer davantage dans l'histoire. C'est de puiser en elle l'énergie, la force, l'envie, la volonté d'écouter et d'épouser sa propre histoire. Le problème du petit commerce, c'est de cesser de toujours répéter, de toujours ressasser, de se libérer du mythe de l'éternel retour. C'est de prendre conscience que l'âge d'or du petit commerce, que le petit commerçant ne cesse de regretter, ne reviendra pas pour la seule raison qu'il n'a jamais existé. Hein.
Bonjour à toute l'équipe Franck en Ardèche. Moi, je suis vraiment content parce que le Grenelle de l'environnement, là, c'est super, plein de grandes décisions. On va sauver la planète, quoi. C'est vraiment chouette, vraiment très chouette. Bon, c'est dommage que les petits Chinois, ils fassent pas d'efforts, quoi. Ils vont construire des centrales, ils vont faire voler plein d'avions. Voilà, vraiment, on n'est pas aidés, hein. On n'est pas aidés.
Bonjour, ami RMG. Si toi aussi, tu as voté non le 29 mai 2005, comme 15 449 507 de tes concitoyens, tu peux participer au jeu du « Mais pourtant j'ai dit non ». Et peut-être gagneras-tu un magnifique lot. C'est très simple et très court. Si l'un des souhaits suivants te tient à cœur, coche-le. Plusieurs choix sont possibles. Attention, c'est parti. Je souhaite faire plus que signer des pétitions. Je souhaite réveiller la démocratie. Je souhaite que l'on respecte mes choix politiques. Je souhaite m'emplir de l'incomparable fierté du devoir citoyen accompli. Je souhaite démontrer que chaque bulletin de vote est déposé par un être vivant doté de réflexion. Je souhaite m'opposer à ce que l'on fasse mon bonheur contre moi. Je souhaite contrarier Nicolas Sarkozy à petit prix. Ami AMG, tu as coché au moins un souhait. Félicitations. Tu tu as gagné le droit de participer à la plainte collective devant la Cour européenne des droits de l'homme. Plainte qui sera déposée contre le gouvernement français pour empêcher la ratification par le Parlement du traité simplifié, qui n'est qu'un clone du traité constitutionnel, rejeté démocratiquement le 29 mai 2005. Mais attention, cette offre est limitée dans le temps. Alors précipite-toi sur le site 29mai.ue. Je répète, 29mai.ue. Que me dis-tu, ami AMG ? Que cela ne sert à rien ? Que c'est joué d'avance ? Qu'il vole de victoire en victoire ? Mais enfin, ami AMG, une victoire fait suite à un combat. Ils ne doivent leur succès qu'à notre démission. Battons-nous avant de déclarer un vainqueur. Et puis, comme disait l'autre, si je me vois contraint de baisser mon pantalon, permettez au moins qu'au préalable, je serre les fesses. Question d'honneur. C'était Eric de Lille.
Oui, je suis très contrarié parce qu'à Malibu, il y a eu 50 villas de stars qu'on brûlait. C'est vraiment... Heureusement qu'il n'y a pas eu aucun décès. Et vraiment, c'est vraiment les pauvres gens, toutes leurs économies s'en vont comme ça. Oh, c'est vraiment perturbant. Mais heureusement, c'était le week-end. Ils étaient tous partis. Mais 50 stars quand même, 50 villas de stars ont brûlé à Malibu. Là. Oh, les pauvres gens, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Oh. Heureusement qu'il reste encore la piscine sur son terrain, mais sinon la maison, elle a brûlé complètement. Hein. Oh, les gars, c'est contrariant, vraiment. 50 villas de stars qu'on brûlait. Oh, la Malibu. Oh, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Ah bon, il faudrait peut-être faire une collecte, quelque chose pour les aider. C'est pour genre reconstruire leur villa, parce que faut qu'ils fassent un film, je sais pas, on peut passer comme ça, c'est pas possible. Oh, j'en dors mal la nuit.
Les habitants de la cité des 4000 ont, comme les autres habitants de France, le droit à la sécurité. On va donc nettoyer, au propre comme au figuré, la cité des 4000.
Je dirais que Sarkozy, quand il est venu, voilà, tout le monde le sait, c'est du cinéma pur et dur. Il a rendu battre Luc Besson sur les sur ses tournages. Il fait des descentes avec TF1, avec France 2, avec France 3. Et des descentes, il parle de rébellion, il parle de ceci, il parle de cela. En face d'eux, ils ont des mômes de 15 ans.
C'est la vérité.
Essayer de trouver des solutions.
C'est la vérité.
Mais je suis là pour trouver des solutions. Profitez ah ouais. Du fait que je sois là.
Mais parce qu'il y a un mort, voilà.
Lui, il parle, mais c'est pas lui qui va aller se bastonner. Parce qu'il envoie les cartes de CRS, ceux qui se mangent des cailloux, ceux qui se mangent des pavés, c'est frigo, tout. C'est... Mais lui, après, il vient, il dit « Ah, mais c'est pas bien ce que les jeunes, ils ont fait. Mais c'est toi qui as déclenché ça. C'est toi qui l'a fait. »
Monsieur, si vous parlez comme ça, ça n'ira pas.
Je vous dis une chose très simple. Ceux qui ne respecteront pas la loi, on les tapera dur. Ceux qui veulent s'en sortir, on les aidera fort.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Dilatébi. Là-bas, si j'y suis, au 4000, à la Courneuve, dans le 9-3.
Flight number 2, arriving from New York.
Je vais faire écouter des archives. Mm-hmm. Donc, on va aller s'installer juste en face du bâtiment, de la barre. Tiens, il y a un petit terrain de basket.
Des étudiants de l'ESSEC qui aideraient des jeunes.
Perpignan, la Courneuve, quand les banlieues s'enflamment, Nicolas Sarkozy sort de son ministère ventre à terre. On reprochait à Dominique de Villepin de ne rien faire, on reproche à Nicolas Sarkozy d'en faire trop. Hier à la Courneuve, le ministre entre dans la mêlée et c'est du parler vrai.
Je vous dis une chose très simple. Nous allons nettoyer la cité des 4000, des bandes, des voyous et de tous ceux qui n'ont rien à y faire. J'y mettrai les moyens nécessaires et le temps qu'il faudra.
Nettoyage, le mot fait tilt. À l'Assemblée nationale, ce vocabulaire n'existe pas dans le dictionnaire du politiquement correct. À gauche, on s'offusque, on stigmatise les formules choc du ministre de l'Intérieur.
Nettoyage au Karcher, ça fait référence à des périodes de l'histoire, de France ou d'ailleurs, qui sont pas les plus glorieuses de l'histoire de la planète. Je pense que M. Sarkozy utilise un langage violent, expéditif, qui montre en quelque sorte un aveu de faiblesse. Parce que s'il s'agissait dans cette cité, et finalement dans bien d'autres, d'avoir ce type d'attitude, j'imagine que le ministre de l'Intérieur, qu'il est depuis maintenant plusieurs années, l'aurait déjà mis en action.
En visite aujourd'hui dans le Rhône, Nicolas Sarkozy méprise les critiques, il assume, persiste et signe.
S'il y en a qui sont choqués par le terme nettoyage, moi ce qui me choque, c'est qu'on puisse tuer un petit garçon de 11 ans. Et quand je vois des bandes qui trafiquent de la drogue dans les halls d'immeubles, il faut nettoyer. Et quand je vois des voyous avec des fusils à pompe, il faut nettoyer.
Nicolas Sarkozy ou le parler vrai, c'est désormais son style, pas de tabou, pas de faux-semblants. Le ministre s'en est fait un atout, mais peut-être aussi un piège.
Alors ?
Réaction après ça. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est franchement, c'est que du vent. Le fait de dire, bon, il y a trafic de drogue, bon, ça, c'est normal, etc., etc. Mais si après, derrière, tu fais rien, si maintenant, tu veux arrêter le trafic, ok, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais après, il faut donner quelque chose aux jeunes. Parce que si tu leur donnes rien derrière, ça va être encore plus violent et on va toujours retourner dans le même cercle, dans la même routine. Donc, tu sais, c'est pas vivable. Et donc, voilà, quoi. Donc, moi, je me dis qu'avant d'aller nettoyer trafic en drogue, tout ça, déjà, donne du travail aux jeunes, mettez des quartiers un peu plus vivables pour les gens. Et après, peut-être qu'il y en a, ils vont pas se diriger vers les trafics de drogue pour survivre. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, ce qu'on fait ici à La Courneuve, la plupart des jeunes, c'est survivre. C'est pas autre chose, c'est survivre. Il n'y a que ce mot-là à dire.
Rien de ce que disent ces deux jeunes gens, Eva et Chris, rencontrés à La Courneuve il y a quelques jours par Dilatebi, rien de ce qu'ils disent là ne vous étonne. Ces mots-là, ces arguments-là, ces constats-là, eh bien on les fait depuis des mois, des années, toujours la même chose. L'emploi, l'habitat, la scolarité, l'apartheid, le ghetto, tous ces mots-là, tous ces constats reviennent indéfiniment. La routine, jusqu'où la routine? Si ça se limite à une routine, bon, mais si c'était l'escalade? Et en tout cas, ce mois de juin 2005, lorsque a lieu ce drame, le 9 juin 2005, je rappelle le drame épouvantable de ce jeune garçon de 11 ans, tué par une balle perdue lors d'un affrontement entre bandes rivales. Sidi Ahmed, le garçonnet, était en train d'aider son père à laver la voiture. Le ministre de l'Intérieur surgit, après tout c'est son rôle, il est à sa place, et il fait un certain nombre de promesses musclées. La Courneuve, les 4000 de La Courneuve seront, dit-il, le laboratoire expérimental en matière de sécurité, en matière d'emploi. À plusieurs reprises, Nicolas Sarkozy vient à La Courneuve, à 3 reprises, le 27 juillet. Il promet un plan d'urgence, il arrive accompagné d'une vingtaine de chefs d'entreprise, publics et privés. Et c'est une mobilisation qui suscite de l'espoir. Il promet du travail à 513 jeunes. Voyons, entre autres, on va voir aujourd'hui ce qu'il en est. Encore une fois, on va parler de ces problèmes des jeunes des quartiers. Il faut peut-être, avant de commencer, faire un tout petit peu d'histoire. Dans les années d'après-guerre, les années dites des 30 glorieuses, années 50, 60, 70, dans son espace colonial, la France recrute massivement la main-d'œuvre qui contribue à ses 30 glorieuses et à sa prospérité. Et les enfants et les petits-enfants de ces immigrés nés en France possèdent la nationalité française et ils appartiennent, comme leurs parents, comme leur papa, tout simplement au monde ouvrier. Sauf que ce monde ouvrier, au tournant des années 80, est frappé de plein fouet par la délocalisation voulue et organisée au nom de la doctrine néolibérale. Et cette exclusion d'aujourd'hui, cette désaffiliation, n'est pas différente des difficultés que rencontre aujourd'hui l'ensemble de la classe populaire. Mais tout comme Le Pen avant lui, Sarkozy essaie de draguer l'électorat populaire en l'opposant aux jeunes des cités. On va voir ces différents éléments, différents personnages, différentes personnes dans la cité des 4000 à La Courneuve, telle que Dilatebi les a rencontrés.
Tout est calme. Trop. Les rires s'éloignent en écho. Les mots s'éteignent dans les gorges. Humanité sort du dico. Et l'audace a éteint ses forges. Les cœurs ne font plus de bruit. Et s'accélèrent dans le silence. ça s'inquiète tant que ça fuit dans une douteuse cadence. Le monde est flou et lâche la rampe. On n'entend rien qu'un souffle qui peine. Ici, contre le vertige, on rampe. On goûte à la source de la haine. À les écouter y chuchoter, tous ceux qui se font leur beurre de la peur. On fixe demain les yeux fermés, la vie se vide, pleut à pleurs. Les professionnels de la trouille parviennent à nous rallier tremblants et qu'on condamne la débrouille au nom d'un dangereux or puant. Il y aura de la merde dans nos urnes et ce silence en se le mangera. Journée nocturne et chemise brune, j'ai peur, mais faut pas que ça se voit. Tout est calme.
Là, on est à Balzac.
La tour Balzac.
Voilà, la tour Balzac.
Enfin, la barre, plutôt.
Ouais, la barre. Pour nous, ça s'appelle le B4.
Le B4.
Voilà, le B4. Parce que c'est le bâtiment 4, tout simplement, et voilà, quoi.
Il y a longtemps, j'étais venu ici, à l'entrée, côté RER. Et de ce côté-là, il y avait des CRS, suite à la visite de Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, il y avait des cars.
Exact.
Ils sont restés longtemps?
Ouais, quand même, hein. Ils ont dû rester peut-être une semaine, deux semaines.
Tant que ça se calme. Hein.
Et vous deux, comment vous avez réagi, vous, quand il y a eu cette histoire? Donc, le petit Sidi Ahmed qui est mort. Mm-hmm. Et puis, tout de suite après, il y a le ministre de l'Intérieur qui est venu. C'est pas tous les jours qu'il y a un ministre qui vient?
Franchement, nous, on n'a pas apprécié, parce que c'était plus un coup de pub qu'autre chose, quoi. Parce qu'à chaque élection, c'est toujours la même chose, insécurité, insécurité. Et donc voilà, quoi. Nous, ça fait 20 ans, 26 ans qu'on est dans ce bordel, et voilà, quoi.
Toi, t'as quel âge maintenant?
26.
26 ans.
Ouais.
Et t'as toujours été ici?
Ouais, toujours.
Et toi?
25.
25. Et toujours ici, pareil?
À l'époque, j'habitais sur Paname. Et je suis venu ici à l'âge de... Je devais avoir 6 ou 7 ans. Et depuis, ouais, je suis toujours ici.
Quand Nicolas Sarkozy est venu, il a parlé de deux choses: la sécurité et l'emploi.
Franchement, la sécurité, elle était là entre guillemets pendant 2-3 semaines quand les cars, ils étaient là. Maintenant, dès qu'ils sont partis, ça a été encore même pire qu'avant. Parce qu'il est venu, il a incité les jeunes, il les a incités, quoi. Donc après, les jeunes se sont dit, ouais, comment ça, on vient chez nous, on nous insulte de racaille. Donc après, à partir de là, ça a été encore plus la zone. Et après, l'emploi, franchement, tu sais, c'était que du blabla, quoi.
Mais à quoi ça sert, à ton avis? C'est quoi l'objectif?
L'objectif, c'est d'être président.
Tout simplement. Pousser les jeunes à faire des fautes. Et lui, par derrière, il vient avec l'insécurité. Ça peut être crédible. Et que comme ça que ça marche.
L'accueil est froid. Il s'y attendait.
France 2, 22 juin 2005.
Cela ne dissuade pas Nicolas Sarkozy. Il fend la foule et part en contact.
C'est-à-dire, tu viens le dire. Viens le dire. Je viens aujourd'hui pour la prévention et pour les jeunes. On va pas me le reprocher. Je dis pas que j'ai raison. Je dis quand même, qu'est-ce qui vous tend la main là? Qu'est-ce qui vient là?
C'est Monsieur Sarkozy.
Fidèle à ses habitudes, Nicolas Sarkozy a beaucoup promis. Des étudiants de Sciences Po, de l'ESSEC et d'écoles d'ingénieurs pour aider les jeunes de la Courneuve. La création d'une cellule délinquance spécialement dédiée à la Cité des 4000 et 150 000 euros pour les associations. Mais ce chapelet de promesses laisse certains dubitatifs.
Il arrive, il fait des annonces, il s'en va, il revient, il distribue des sous à droite, à gauche, les machins, les trucs. Il ne sait pas si c'est ça qu'il nous faut ou pas faux.
Je pense plus que c'est un coup médiatique plutôt qu'autre chose, quoi. Et je pense qu'il vise plus 2007 que la Courneuve.
Nicolas Sarkozy a fait une promesse facile à vérifier. Pour contrôler les résultats, il a annoncé son retour ici, à la Courneuve, dans un mois.
Il y a quoi qui a changé?
Je te demande.
Il n'y a rien. Même je pense que c'est devenu encore même plus pire qu'avant et que ça va se dégrader de plus en plus parce qu'il est en train d'instrumentaliser une chose qui est dangereuse pour la République française, c'est de stigmatiser toute une région, toute une jeunesse. Ce qui est dangereux, c'est que nous, on a 25 ans, on a encore la conscience parce qu'on a été à l'école, tout ça, etc., etc. Mais les jeunes qui ont arrêté à l'âge de 13 ans, j'imagine même pas qu'est-ce que ça va donner. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé, même par rapport à la jeunesse que je vois dans le 93, je vois pas comment on pourrait la récupérer. Parce que ça arrivait tellement à un niveau qu'il n'y a plus rien qui suit, il n'y a plus aucune structure qui suit. Tu vas mettre le jeune en prison. Le jeune, tu vas le mettre en prison, et 13 ans, 14 ans, ça va rentrer dans sa tête, il va ressortir, il va devenir fou. Il va devenir encore plus fou qu'il était rentré. Ce qu'il va faire, ok, mets tous les jeunes en prison, tous les jeunes en prison. Mais quand ils vont avoir 20 ans, 25 ans, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir une génération de fous. C'est là qu'après la France, elle aura peur, elle aura raison d'avoir peur.
On va donc nettoyer au propre comme au figuré la cité des 4000.
Surtout les phrases choc aussi. Ces genres de phrases genre « Là où personne n'a mis les pieds, moi j'ai mis les miens ». Tu vois, il a cette façon de dire les choses que t'aimes ou que t'aimes pas, t'es pris. Tu te dis mais pourquoi il dit des choses comme ça? Mais tu vois, c'est dire qu'il se place au-dessus de la police, il les manipule mais mortel. Et c'est la police qui est exposée après au danger. Mais ça, lui, il s'en fout, parce que lui, son image, elle est toujours là. Il a ses autres campagnes à faire, tu vois, ailleurs et tout. C'est super grave ce qu'il dit à cette heure-ci, c'est super grave. Parce qu'il faut se dire que maintenant, de nos jours, c'est la violence qui fait le business. À la télé, avant, on voyait pas de mort, maintenant, on en voit normal. Tu vois, tout ce qui avant était censuré, maintenant, ils le font montrer normal. Donc lui, il a joué sur cette vague-là. Bah, puisque tout est choquant dans cette vie, eh ben moi, je vais venir avec mes phrases choquantes. Voilà. Eh ben madame, si vous avez peur de ces racailles, je vais vous les nettoyer. Vous inquiétez pas. Et il a dit ça normal. C'était où? C'est Argenteuil, devant les jeunes. Hein. Mais normal. Hein. C'est-à-dire tout le monde est en train de le huer, lui. Il a dit non, bon. Pff. Mais c'est pas lui qui va s'exposer à ces jeunes-là, c'est la police.
Et Nicolas Sarkozy conforte donc son image de défenseur des victimes. Une stratégie payante, si l'on en croit un sondage pour Paris Match apparaître demain.
France 2. 24 juillet 2005.
Selon cette étude, Nicolas Sarkozy arrive en tête des personnalités politiques préférées des Français en vue de l'élection présidentielle. Vous le voyez, avec 39% des sondés en sa faveur. Et surtout, il arriverait en tête au second tour, quel que soit le candidat de gauche en face de lui. Le plus résistant serait Jack Lang. Toujours selon ce sondage, Nicolas Sarkozy le battrait à 52%. Jack Lang qui fait d'ailleurs savoir aujourd'hui qu'il serait ravi de s'opposer à Nicolas Sarkozy en 2007 s'il était lui-même candidat. Il fera meilleur aujourd'hui, bien meilleur.
Une stratégie payante, dit le journaliste. Tous ceux qui se font leur beurre de la peur, dit Loïc Antoine. Et effectivement, les mots les plus employés, c'est coup de pub, coup de com, esbrouf, effet d'annonce, coup d'annonce, poudre aux yeux, chapelet de promesses. Mais vous avez entendu, le ministre à cette époque est venu avec des étudiants de Sciences Po, avec des chefs d'entreprise privés comme publics. Et alors, tous ceux qui l'accompagnaient à cette époque se sont-ils demandé ce qui avait été alors promis gravement? Il s'agit d'un personnage important de notre République. Est-ce que les promesses ont été tenues? Que sont devenus ces projets qui semblaient après tout tout à fait passionnants et suscitaient de l'espoir? Eh bien, personne visiblement ne s'en est vraiment préoccupé. Et ça rend perplexe le maire de La Courneuve, Gilles Poux, que Dilatebi a rencontré.
Quand on est ministre, qu'on emploie des mots comme racaille, quand on emploie des mots comme je vais nettoyer au Karcher, naturellement. Même si on peut toujours s'expliquer après, dire mais oui, mais c'est pour quelques individus précisément, ça a un aspect généraliste qui met un petit peu l'ensemble de la population au pilori. Et donc il y a un fort ressentiment de la part des gens à cet égard. Et donc tout ça a contribué à exacerber les tensions dans la ville. Les jeunes ont vraiment le sentiment d'être les boucs émissaires désignés d'une situation qui ne va pas et dont ils sont fondamentalement les premières victimes. Et je crois que ce qui s'est passé au mois de novembre porte le témoignage de ces mépris répétés, réitérés vis-à-vis de cette jeunesse qui est en grande souffrance. Et le terreau de ce que nous avons connu au mois de novembre, il est toujours brûlant aujourd'hui. Et je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais j'ai vraiment le sentiment que le moindre incident, la moindre étincelle de quelque nature que ce soit, crée les conditions et va créer les conditions que nous soyons confrontés à de nouvelles, je dirais, émeutes, révoltes, parce que quand on n'a plus d'espoir, quand on n'a plus de perspective, quand on a le sentiment d'être systématiquement rejeté, humilié, ben je comprends qu'à un moment donné, ils pètent les plombs. Voilà. Et ça, c'est irresponsable, inadmissible de la part de ce gouvernement.
Les journaux disent vrai, les philosophes aussi. Je suis l'ennemi juré du rayonnement de la francophilie. J'héberge trois tribus Maasai sous mon lit, dont les mioches ont appris à fondre sur Paris. À l'arrivée des beaux jours pour fêter le printemps, aux premières manifs d'étudiants j'accours. Méfiez-vous de mes enfants, on les a exclus du ciel. Et comme les anges, les démons ont des ailes. Je suis une bande ethnique à moi tout seul, c'est écrit sur ma gueule. Voyou, barbare, intégriste, casseur, terroriste, salopard, sauvageon. Est-ce que le compte est bon? Toujours à 40 000 quand les rats sortent des bidonvilles avec des bidons d'huile. Ces trois équipes de télé tout au plus, caméra au point, qui m'attendent à l'arrêt de bus, qui sont les vrais stars du JT, les gentils condés ou les grands méchants noirs. Il va falloir se décider, car mon casier judiciaire a horreur du vide. Un peu comme moi d'ailleurs, qu'y a-t-il de bizarroïde? À moi tout seul, je suis une bande ethnique, égorgeur de bêtes à poils laineux, la lame passée au feu. Salty qui a juré à tout bout de champ pour des broutilles ou sur l'honneur de ses parents. Nom, prénom, claque au fond de la gorge, de sorte que la BAC t'aime à bras le corps. Alors qu'elle orne sur le coffre les tracts qui traînent, manif contre le maire d'un malin vide la haine. Je ramène toute ma culture de gâteau repeux à la hit, vas-y partage, fais pas le var creux. Et le cheveu, harash qui affole la signalétique, affiche ma bande ethnique.
Toujours ce regard aussi noir que méfiant, hein. Non pas du genre fuyant, mais plutôt horrifiant. J'ai ses doigts, ses mains qui marchandent, qui prennent, qui baffent, mais jamais ne demandent. Sans compter cette grande gueule, j'suis bon qu'à jacter, brailler, brailler, insulter, becter. Ses pieds qui ont couvert de la distance, obligé de courir encore plus vite que les flics. J'pense avoir ce cocktail du parfait Morico pour m'écarter des clichés tropicaux. Banania, oui, buana, c'est comme ils veulent, hein. Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Je suis une bande ethnique à moi tout seul. Putain, c'est écrit sur ma gueule. Un cordon sanitaire dressé autour de mon CV. Et ouais, y'a de quoi s'énerver.
Y'a de quoi s'énerver. Tout niquer, tout baiser, tout péter, tout démonter, tout brûler.
Alors là, Annie, on est au 11e étage d'une tour de 24 étages, 26. En plein dans les 4000.
26 étages.
26 étages.
26.
Ah, j'en ai compté 24.
Non, il y en a 26. Où avant, j'habitais, quand je suis arrivée en 72, j'habitais au 26e étage.
Dans cette tour.
Dans cette tour, je suis toujours restée là. Et comme après, je me suis retrouvée enceinte de mon fils Michael. Bon, bah, je suis restée quand même au 26 parce que j'arrivais pas à avoir encore un logement. Et quand j'ai eu Angélique... Alors là, j'ai déménagé, enfin bon, bon, je suis arrivée au 11e étage, vu que c'est plus grand, c'est un F4, sinon j'avais un F2.
Et là, en face de nous, il y a des bâtiments.
Il y a Honoré de Balzac.
Et c'est par là-bas qu'il y a eu l'incident,
oui,
la mort du petit Sidi Ahmed.
C'est juste, malheureusement, c'est juste ici, le grand Balzac, là, qui a eu l'histoire avec le petit. Enfin, l'histoire avec le petit, c'est un règlement de compte. Et puis, malheureusement, il s'est trouvé là au mauvais moment. Hein. C'était pas voulu. Hein. C'est des choses que moi, j'ai pas trop admis parce que suite à ça, qu'il y a eu Sarkozy qui est venu et tout, qui a profité de l'occasion pour venir allumer la mèche, comme moi, je dis tout le temps. Hein. C'est lui qui a allumé le feu. Sinon, c'est calme, hein, y a pas de problème.
Vous êtes là depuis 1972.
Oui, depuis 1972.
Et aujourd'hui, vous faites quoi? Vous travaillez? Vous êtes à la retraite?
Je travaille plus parce que quand j'ai voulu retravailler, vu mon âge, parce que j'ai 59 ans, alors ça fait à peu près depuis que j'ai élevé mes deux autres enfants, c'est pour ça que j'avais arrêté de travailler. Vous savez, quand vous passez la quarantaine, on était trop vieille pour retravailler, j'ai pu retrouver de travail.
Et c'était quoi votre travail ?
Ben, j'étais dans l'électronique et puis, après, bon, ben, j'ai fait des remplacements de gardienne à la Courneuve. J'ai fait un peu partout des remplacements en attendant que... Mais bon, les remplacements de gardienne, c'était juillet-août et puis les vacances de Pâques ou quand une gardienne était malade, quoi. C'était pas tout le temps, tout le temps. Enfin, comme on dit, ça était du beurre dans les épinards.
Et maintenant, il y a des épinards sans beurre.
Ah ben maintenant, il y a des épinards sans beurre parce que mon mari est en invalidité et avec 800 euros par mois. Alors, quand on a retiré l'argent du loyer, ça fait dur. Hein.
C'est combien le loyer ?
Plein pot, puisque j'ai pas d'APL, donc ça me fait du 600 euros par mois.
Ici ?
Ben oui, mais c'est un F4 quand même.
Ouais, il fait froid, on va rentrer.
On va rentrer, j'ai froid, là.
Oula, j'ai claqué la porte. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez, par mois, 800 euros.
Oui.
Le loyer, il est de 600 euros.
Mmh.
Il reste 200 euros pour vivre par mois.
Voilà. Ben, il faut que je me débrouille. Hein. Faut bien. Hein. Des fois, je vais au Secours Populaire. Hein. Il n'y a pas de honte. Hein. Faut bien que j'y arrive. Hein. Parce que, bon, ils ne donnent pas grand-chose, mais bon, il faut quand même me laisser aux autres aussi. Mais bon, ben, même s'ils me donnent un peu de sucre, une bouteille d'huile, un petit, ben, ça dépanne. J'ai pas de honte. Hein. Isabelle aussi, des fois, elle me dit, tiens, maman, comme elle vit quand même avec... Bon, elle aussi, c'est dur, mais...
Votre fille avec ses 4 enfants
fois, voilà. Bon, ben, des fois, comme elle dit, elle va, quand elle achète aussi des fois de la viande, en gros, voilà, des fois, il y a des lots de viande qui mettent en sol. Enfin, aujourd'hui, pas en sol, mais enfin, bon, c'est pas en sol, mais des fois... Vous savez, il faut des gros cartons de viande. Elle m'en donne et tout, si, mais ils m'aident. Hein.
À votre avis, il y en a d'autres dans cette situation ? Ici, dans le quartier ?
Bah évidemment qu'il y en a d'autres, je suis pas la seule, hein, malheureusement.
Comment vous savez que vous êtes pas la seule ?
Bah parce que je côtoie des gens quand même, je sais très bien, rien que dans mon association, ils sont... Rémi, c'est pas tellement payé non plus, bon ben... Ici, il y en a beaucoup, Rémi. C'est pour ça que j'ai fait mes papiers de retraite, là, ça y est, j'étais... Comme ça, je dis au mois de juin, ça va aider un peu si j'ai ma petite retraite quand même. Même si j'ai que 20 euros, c'est toujours 20 euros, bah tiens.
Qu'est-ce que vous faites avec 20 euros, justement ?
Eh bien, 20 euros, je vais au magasin, à la grande surface, et hop, je remplis mon frigo. Enfin, je remplis, façon de parler. Hein.
Dans l'appartement, il y a vous, il y a votre mari, il y a votre fille Angélique.
Voilà.
À manger pour combien de temps avec 20 euros, vous ?
Avec 20 euros ? Bon, on va être francs, 3 jours.
Pour 3 personnes ?
Pour 3 personnes. Parce que je m'arrange à faire à manger, que ça, voilà, je ne vais pas aller acheter les côtes de bœuf. Alors, le moins cher, c'est vrai que c'est les beefsteaks congelés, là. Alors, je prends le gros paquet, là, qu'il y en a 20 dedans. Comme le poulet, ben, je vais acheter le poulet entier. C'est moins cher que prendre des bouts de poulet coupés ou voilà. Et ben, moi, je vais couper le poulet en moitié. Je vais garder l'autre moitié. Je vais faire en sauce, déjà, avec du riz ou quelque chose, déjà. Et puis, bon, pour pas avoir toujours la même chose à manger. Et l'autre bout, au congélateur. Comme ça, après, ben, je prends un petit steak. Puis, tiens, dans une semaine, tiens, si on faisait du poulet. Comme ça, je fais un mélange. Non, mais je suis maligne, hein. Je suis de l'aube, hein, je vous l'ai dit. Hein. Chez ma grand-mère, à Plaine-Salange. Hein. Et ben, on est économe. On fait du manger de campagne. Avec des pommes de terre, on fait beaucoup de choses, selon comment on les accommode. Ouais. Vous pouvez manger des pommes de terre, et puis le lendemain, les pommes de terre, ça ne va pas être la même chose, parce qu'on ne les aura pas faites de la même manière. Il faut se débrouiller.
Elle veut sortir, elle va à sa caisse.
Ah, c'est le chat. Allez, le chat qui est venu vous... Gratté,
ouais,
qui a envie de sortir.
Ouais, bien, ah,
voilà, mieux voir la
fenêtre. Gratte la cuisse.
Allez, tu sors.
Allez, Mystic Lee. Allez, va. Allez. Qu'est-ce qu'elle est bête, celle-là. Dans le balcon et on ferme. Et quand elle va voir rentrer, elle va gratter sur la fenêtre.
Qu'est-ce qui a changé depuis les passages du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, ici dans le quartier ?
Rien du tout. Les jeunes sont toujours en bas pareil, ils discutent entre eux, moi je trouve qu'il n'y a rien de changé, ils n'en ont rien à foutre alors, au contraire.
Donc rien n'a changé ?
Ah non, moi, pour moi non, ça a toujours le même problème, il n'y a pas de travail. Quand ils disent que le chômage a diminué de tant et %, moi je ne vois pas que c'est qu'ils ont été chercher ça. Hein. Parce qu'ici, je vois toujours les mêmes qui sont toujours sans travail. Hein. C'est pas du dit qu'ils ne cherchent pas, hein. Moi je vous dis qu'ils cherchent, hein, mais bon. Il n'y a pas. Hein. Moi, je trouve que non. Ça, il faut qu'il fait des promesses. Bon, s'il vient qu'il veut faire des promesses, il faut qu'il les tienne. Mais il vient, il fait des promesses, il leur fait des promesses, mais il tient pas ses promesses, alors comment voulez-vous? Après, évidemment que les jeunes, ça les énerve, ça, c'est normal. Moi, on va me dire, tiens, je vais te donner du boulot et tout, et puis même à mon âge, on va pas me le donner, ben, je vais être énervée, c'est normal. Moi, je me mets à leur place, c'est pas normal non plus que... Eux aussi veulent peut-être donner un coup de main à leurs parents. Moi, je sais que j'aurais mon fils Michael, il m'aiderait. Il serait en colère s'il n'avait pas de travail. C'est sûr que Michael, il a trouvé du travail par piston. Il venait juste de rentrer en mécanique auto, là.
Mais il travaille où, dans la mécanique?
Dans le 13e.
À Paris?
Oui, à Paris, dans le 13e. Puis c'est juste où il a eu son accident. Il venait manger le midi, puis voilà, il n'est jamais arrivé, quoi.
Il avait quel âge?
20 ans. Il a eu cette voiture, là. Enfin, bon... pas remuer le truc parce que voilà, ça va me faire pleurer, je préfère pas.
Sarkozy est un homme que je connais depuis très très longtemps.
RTL, 8 septembre 2006.
Depuis avant qu'il soit maire de Neuilly. C'est lui d'ailleurs qui m'a marié avec Laetitia. Eh ben, je lui avais dit, si tu deviens président de la République, je te soutiendrai. Et je tiens ma parole. Je le soutiens pour une seule raison. Et je veux dire, c'est pas une question de copinage. Hein. Sarkozy est un homme de parole, est un homme d'honneur. C'est un homme qui aime les Français. C'est un homme qui aime la France. Je sais qu'il fait des promesses. On a, pour l'instant, eu de tous les autres présidents qui sont passés, des promesses qui n'ont jamais été tenues. Je suis certain que les promesses que Sarkozy fait, il les tiendra. Et c'est pour ça que je soutiens Sarkozy.
Alors, sur les 517 promesses d'embauche données par Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, quand il est venu ici au 4000, aujourd'hui, vous, Gilles Poux, maire de la Courneuve, vous en constatez combien?
Très honnêtement... Le coup de pouce que j'estime, c'est globalement, c'est qu'il y a une trentaine de personnes qui ont dû tirer un petit peu quelques avantages dans le cadre de cette venue. Voilà. Et tout le reste, ça a été dans le cadre du travail traditionnel, des services, la NPE. Donc, une situation qui n'a fondamentalement pas bougé. Et malheureusement... Moi, j'avais 525 jeunes de moins de 25 ans au chômage il y a un an. J'en ai aujourd'hui, globalement, le même nombre à 5 unités près. Donc, un bilan sur ces questions de l'emploi négatif. Et j'en rajouterai un troisième aspect absolument négatif, c'est que, par-dessus le marché, il a, je dirais, trompé les gens. Et renforcer la désillusion, la démoralisation des gens. Donc, beaucoup de colère de ma part sur un comportement irresponsable de la part d'un homme qui se prétend un haut responsable de l'État français et qui, par ailleurs, revendique les plus hautes responsabilités nationales.
Donc vous êtes arrivé en 1972 ici.
En 1972. C'est pas à Sarkozy de venir ici faire sa loi. La police connaît les familles difficiles, les familles en difficulté, le jeune, je veux pas dire l'enfant, mais le jeune qui fout sa merde, eh ben la police le connaît, elle doit l'arrêter. Moi, je pense, non. Je vois des choses, mais on peut rien dire. On peut rien dire parce que d'abord, c'est la loi du silence quand même. Et si jamais on dit quelque chose, même à eux, hein, on va me dire « Qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que t'as, toi? T'es ma mère, toi? » On va te parler comme ça, on va te... Moi, il y en a un qui a jeté un papier l'autre jour, j'ai dit « Pourquoi tu jettes le papier par terre ?» Il m'a dit « T'es pas contente, toi, la vieille, tu le ramasses. » Mais c'est pas tous pareil. Et ça, c'est pas des jeunes de 20 ans. Ça, c'est des gamins de 14-15 ans. Et tout le monde a peur de parler à des gamins. Moi, je dis ça, c'est des gamins.
Comment ça se fait?
Il y a aussi un noyau de grands, quand même. Hein, parce qu'on va dire les choses par son nom. Il y a une équipe où c'est la drogue qui rentre et que, voilà. Et c'est une équipe que ça, c'est ma place là, tu y viens pas. Et ça, entre eux, et c'est vrai quand il y a ces bandes et que, je suis pas trop rassurée quand même. Hein. Moi, je préfère fermer ma bouche. Je vais pas me prendre un coup de couteau quand même. Où je veux pas que ça prenne à mes petites filles. J'ai quand même 4 petites filles et moi j'y tiens. J'ai toujours. C'est vrai qu'on a peur. Il faut. Qui sait qu'il n'a pas peur quand même. Il donnerait du travail à ces jeunes. Peut-être qu'ils feront pas ça. Le travail, bon, il y en a quoi? Parce qu'on dit oh, ils veulent pas, mais il y en a peut-être 3 qui veulent pas. 3 sur combien? Les autres veulent travailler. Ils auraient du travail. Il y aurait moins de chômage. Il y aurait pas tout ça. Hein. C'est sûr ça. Hein.
détresse d'un père, son enfant vient de mourir.
Quel avenir quand les femmes en pleurs mettent au monde leurs enfants dans des ruines à proximité des champs de bataille, dans un décor indécent, encerclé par des tanks censés représenter la quintessence USA. Tu n'es pas vulnérable, paraît-il, par essence. Tu te braques et ta rétine, vu le crack et la résine s'insinue dans l'archétype que tu nommes l'axe du mal, c'est pathétique. J'ai vu des pellicules viser des clichés polaroïdes exhibant les belliqueux prisonniers civils et l'héroïne et qu'ironie du sort. Malade mental en chef de gang, enlève le vent, les flammes des puits de pétrole et baisse le monde au nom du dieu croissant.
USA, alliés, boys, coup de jubile, leur embargo oblige à spoycott utile de leurs sapes, leurs boissons et leurs cigarettes. Ils veulent faire taire cet homme en haut du minaret, arène ou harem. Ils jettent leur femme au lion sans que leur carême les arrête. Ils sont fiers d'un fameux fion, sache à qui ta thune sert. Sache à qui ta sert. Avant que t'avales tu, avant que t'avales tu. Armement culinaire qui a battu le fer, ou munition d'un litre qui se charge dans un verre, qui atteint le cœur, en d'autres termes une balle sous une veste. L'ascension se parle pas, le social pour sexe. La messe est dite, c'est le cérémonial du traître. Évidemment, mes peines de mort sont sans pareil.
La violence règne et vos idées se violent au quotidien. Encore en guerre de croisade, les collabos, les volontaires seront stères. À quand les génocides sur fond de violoncelle? Le drame est violent, certes. La moyenne, ce n'est pas comme la moyenne des rêves à la moyenne. Je ne rêve pas, je plaide pour un message de paix. Loin de vos flatulences maniques et haine, c'est la théorie du lance-pierre. Contre des tanks, des enfants s'élancent fiers. Existence pleine de résistance, qualifiée de terrorisme négligent. Tout un peuple qu'on appelle absence, souviens-toi. Quelques écrivains, terroristes intellectuels pensent faire de l'argent en stigmatisant toute une culture sans même la connaître. Ignorance recouverte de pseudo-connaissances hors contexte. Arabesque folle, mort complète. Algébrique est ma stratégie, Alchérimètre contemple le ciel et les étoiles. Du haut d'une dune ou de l'Atlas, c'est une oasis de science.
Nous sommes français en freelance, étrangers en puissance. L'inconscient des gens, de bonne foi nous vous défions. Payez presque l'autre, mais seulement presque. Le temps tout simplement d'un changement de veste. Je remercie Dieu pour l'abondance de cellules grises qui permettent d'analyser et m'évite la discute vite. Des parents braves imperméables à la haine te diront ne cherche jamais la mère si elle vient de t'être pas faire. J'ai passé mon enfance dans un quartier de prolétaires. Nous étions les 16 arabes naturellement peu bavards. Des rockers à la fenêtre, des seringues à la pelle. Dans nos bacs à sable, sans répliquant vient le camion bête.
Merci à tous, c'était un reportage de Dila Tebi. Merci aussi à Margaret Karcher. Merci aussi à Sofiane, Chris, Effa, Alain et Gilles Pou, le maire de La Courneuve. Je rappelle que c'était un reportage d'octobre 2006 qui était un retour sur les événements de juin 2005 à la cité des 4000 de La Courneuve. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Olivier Riotor et Michel Bézikian, c'est Yann Chouka et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry, qui a la lourde charge également du répondeur, dont le numéro est le 0156 40 37 37, 0156 40 37 37, répondeur qui attend vos messages coup de gueule ou coup de cœur.